Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ces nouvelles fouilles dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Le Covid peut-être bientôt derrière nous, ça se précise en tout cas. Et puis, faut-il faire payer plus cher les étudiants à la fac? L'idée lancée par Emmanuel Macron en fait bondir certains.
Comment mieux accueillir les enfants en situation de handicap à l'école? Ce sera une de nos interrogations après les propos polémiques d'Éric Zemmour. Et puis, Djokovic, est-il en fin de carrière? On posera la question.
Notre question du jour, justement, sur RTL.fr. Comprenez-vous l'expulsion de Novak Djokovic? Vous dites oui à 82%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
C'est
bonjour
encore bien gris et bien froid.
Et oui, dans la plupart des régions, c'est vrai qu'on passera encore le reste de la journée sous la grisaille, avec même parfois des petites brunes. Hein. C'est très désagréable. Il y a même quelques vallées où les brouillards resteront assez denses, vallée de la Saône ou encore dans le nord-est, parfois même du côté de la vallée de la Garonne. Alors, quelques exceptions, hein, les éclaircies devraient largement dominer, je dirais même le soleil sur les Pyrénées, autour de la Méditerranée ou encore dans les Alpes, là vous aurez du grand ciel bleu avec un peu de mistral et d'autres montagnes autour du golfe du Lion. Et puis, belle surprise, peut-être un peu plus d'éclaircies que prévu près de la Manche. Là, je les vois se développer entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, tout ça dans une certaine fraîcheur, hein, pas plus de 3 à 8 degrés, quelle que soit la région cet après-midi. Il n'y a que près de la Méditerranée où on dépasse passera les 10 degrés.
Les chanceux, merci Louis.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc Cagnac-les-Mines dans le Tarn avec cette nouvelle opération de fouille menée dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Bonjour Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL. Les enquêteurs ratissent une ferme qui a brûlé il y a quelques mois.
Oui, bonjour. Une ferme qui est située à précisément 1,6 km de la maison de Cédric Jubilard. C'est là qu'il aurait avoué à un co-détenu de la prison de Seyss, où il est en détention provisoire, qu'il avait ou qu'il aurait enterré le corps de Delphine. Ce scénario, il l'avait aussi raconté à Séverine, sa compagne, mais a-t-elle assuré devant les enquêteurs? Il en parlait sur le ton de la plaisanterie et elle n'y a jamais cru, c'est ce qu'elle a dit aux gendarmes lors de sa garde à vue. Cette hypothèse a aussi été balayée par les avocats de Cédric Jubilard. Mais elle est donc vérifiée une nouvelle fois depuis ce matin par les enquêteurs après des fouilles et des battues déjà menées à plusieurs reprises.
Et Patrick, ce sont de gros moyens qui sont mobilisés.
Oui, de gros moyens ont été déployés depuis ce matin avec sur place une dizaine de véhicules de la gendarmerie et surtout, et pour la première fois, la présence de militaires du FOS, la section des fouilles opérationnelles spécialisées du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. Cette section intervient notamment pour découvrir des charniers sur les théâtres de guerre. Alors les fouilles se concentrent depuis ce matin autour de cette ferme et notamment à la lisière d'Ambois qui se trouve à proximité. La gendarmerie assure également que les fouilles vont durer plusieurs jours autour de la ferme, mais aussi dans un rayon de quelques kilomètres autour du domicile de Cédric Jubilard.
Patrick Hisson, en direct de Cagnac-les-Mines pour RTL.
Dans l'actualité également, ces bonnes nouvelles sur le front du Covid.
Ça y est, le pire semble être passé. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Ce n'est pas moi qui le dis, ni vous, hein, mais le professeur Fontanet.
Exactement. Pour la première fois depuis 3 mois, le nombre de cas hier était inférieur à celui du dimanche précédent, 287 000, donc 9 000 de moins. Le taux d'incidence a commencé à baisser dans quelques départements, à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans Lyon et en Corse du Sud. Donc Arnaud Fontanet était très optimiste ce matin, mais il n'est pas le seul. Le patron du laboratoire Pfizer nous promet un retour à une vie plus normale au printemps. Le virus ne va pas disparaître, il y aura d'autres vagues, mais grâce au vaccin, grâce aux nouveaux médicaments, on devrait mieux le gérer pour qu'il fasse beaucoup moins de victimes.
Virginie, pour l'instant, pas question pour autant d'alléger les restrictions. Le Parlement a d'ailleurs officiellement adopté un pass vaccinal la nuit dernière et le gouvernement espère une entrée en vigueur en fin de semaine.
Oui, parce que la vague est loin d'être terminée. À l'hôpital, si les cas graves en soins critiques se sont stabilisés, le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter. Et si on regarde en Grande-Bretagne, hein, on avance sur nous d'une dizaine de jours, eh bien, eux ont connu leur pic le 1er janvier. Depuis, le nombre de cas baisse très vite, moins 38% encore hier. Mais les hospitalisations ne baissent toujours pas. Donc, il va falloir attendre encore sans doute 2 semaines en France pour que l'amélioration se voie à l'hôpital et que le gouvernement allège certaines mesures, sachant qu'avec le pass vaccinale, le retour à une vie plus normale ne concernera que les personnes vaccinées. Elle restera très compliquée, évidemment, pour les autres.
Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Autre raison d'espérer, c'est ce médicament, cette pilule signée Pfizer et qui sera disponible, a priori, d'ici à la fin du mois. Bruno Mégarban est chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
C'est un médicament qui sera disponible par voie orale et qui, pris dans les 3 à 5 jours après le début des symptômes, pourrait, chez les personnes à risque de faire une forme grave de la maladie, limiter ce risque. Un essai thérapeutique semble montrer une réduction de 89% du risque d'être hospitalisé ou de décéder si l'on prend ce traitement. Donc, c'est un médicament qui est source d'espoir, notamment chez les personnes non vaccinées, contaminées, ou les personnes très fragiles qui, malgré la vaccination, pourrait courir un risque de faire une forme grave de la maladie.
Le professeur Mégarban au micro RTL d'Agathe Landais. Alors cette pilule, elle sera produite en France, à Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pfizer a en effet décidé d'investir 520 millions d'euros sur 5 ans. Investissement qui s'inscrit dans le cadre de Choose France, cette opération séduction visant les entreprises étrangères. La première avait eu lieu, on s'en souvient, en 2018. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
C'est de la com ou ça fonctionne vraiment, Choose France?
Ça fonctionne. Hein. Depuis 2018, on a déjà eu 35 projets présentés lors des éditions précédentes. L'été dernier, on a fait un premier bilan, 20 projets réalisés, 14 en cours de déploiement, beaucoup de projets industriels, d'agrandissement de sites de production, d'ouverture d'entrepôts, en tout 30 000 emplois sauvés ou créés. Parce qu'il y a des postes qui ont été maintenus grâce à ces investissements, il n'y a pas eu des créations. Le rendez-vous qui consiste habituellement, hors Covid, à accueillir des grands patrons mondiaux au château de Versailles, a ainsi permis à la France de devenir, depuis 2019, la première destination d'Europe en termes d'investissement étranger. C'est ce qui est ressorti du baromètre EY. En 2020, il y a donc eu, en tout, cette fois, hors Choose France, 985 projets dans l'Hexagone, contre 975 au Royaume-Uni et 930 en Allemagne. Énergie, transport, santé, ce sont les secteurs qui profitent le plus de ces investissements étrangers. Et les régions les plus attractives sont l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France.
Martial Liu, chef du service économie de RTL.
Emmanuel Macron a fait bondir les syndicats étudiants avec ses propos sur l'université.
Face au président d'université la semaine dernière, le chef de l'État a évoqué une possible remise en cause du principe de quasi-gratuité. Inacceptable, inconcevable, répond ce matin sur RTL la présidente de l'UNEF.
En fait, Emmanuel Macron, il emmerde pas seulement les non-vaccinés, il emmerde aussi les étudiants. Nous, on a dû organiser des distributions alimentaires pour les étudiants, on a eu des vagues de suicides, et maintenant on nous dit va falloir payer un peu plus. Moi, j'ai déjà du mal à payer mes frais d'inscription aujourd'hui. Donc elles ont déjà un coût. Et par ailleurs, elles sont financées comment les études? Quand on parle de l'investissement public, c'est quoi? C'est l'impôt. L'impôt, c'est toute la société qui le paye. Quand on parle sélection, quand on parle augmentation des frais d'inscription, c'est la vie des gens qui se joue. C'est notre avenir. C'est-à-dire qu'on va refuser à des étudiants d'étudier. On va leur refuser donc de construire leur avenir professionnel. Alors, Mélanie, ça, c'est quand même particulièrement important.
Mélanie Lus, la présidente de l'UNEF, étudiante en droit, avec Yves Calvi ce matin sur RTL. Et puis à propos d'éducation, j'ajoute que plusieurs syndicats, la FSU et FO ainsi que la FCPE, première fédération de parents d'élèves, appellent à une nouvelle grève jeudi, mouvement qui devrait être moins suivi que la semaine dernière. A priori, le premier syndicat du primaire n'y participera pas. Le tribunal correctionnel de Paris rendra lui sa décision tout à l'heure, dans moins d'une heure maintenant, concernant Éric Zemmour et ses propos sur les migrants mineurs isolés. Le candidat ne sera pas présent. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous parmi bien d'autres dans un calendrier qui s'annonce chargé.
Oui, nouvelle convocation dès jeudi. Éric Zemmour doit être jugé pour contestation de crimes contre l'humanité. Il avait soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français. C'était à l'automne 2019 sur la chaîne CNews. Et le candidat à la présidentielle n'aura pas le temps d'oublier le chemin du palais, puisqu'il est attendu de nouveau au tribunal dès la fin du mois. Cette fois, ce sera pour avoir utilisé certaines images dans son clip de campagne sans aucune autorisation. Des images du film Jeanne d'Arc, par exemple, son réalisateur Luc Besson fait partie des plaignants. Et puis, tout dernier rendez-vous judiciaire prévu en mai 2023 pour diffamation aggravée pour des propos tenus sur le mouvement féministe et LGBT. Bref, si on fait les comptes jusqu'ici, Éric Zemmour a été poursuivi une quinzaine de fois. Relaxé 10 fois, Emma a répété son avocat. Ce qui fait tout de même un bilan judiciaire peu glorieux. 2 condamnations pour provocation à la haine.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et puis, suite et peut-être pas tout à fait fin du feuilleton, Djokovic, le joueur, est arrivé il y a quelques minutes à Belgrade. Quant à la suite, Roland-Garros notamment, et bien le gouvernement indique que dès lors que le pass vaccinal sera en place, tout sportif venant de l'étranger devrait être vacciné pour rentrer dans une enceinte sportive. La position française est claire. Qu'en dit-on en Serbie chez Djoko? Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL.
Position très claire ici aussi, hein, où un journal titré ce matin « Nolecide, contraction de Nole, Novak en serbe, et génocide pour Slobodan, cette position française est une honte ».
Le meilleur joueur de tennis du monde, tout ça parce qu'il ne veut pas être vacciné, c'est absurde. Ils se font juges, mais il faut dire les choses franchement, ils sont manipulés, contrôlés dans leur tête par le coronavirus, ce n'est pas normal. C'est un martyr grâce à la politique australienne, et maintenant, même Federer, Nadal le lâche, c'est absurde.
Vania parle même d'un complot mondial contre Novak.
Je m'inquiète pour la suite de sa carrière parce que je pense que c'est un mouvement qui a été lancé. Ce n'est que le début et que l'establishment occidental est à la manette, l'Australie aussi. Le plus grand sportif de l'histoire et le plus grand joueur de tennis depuis tant d'années ne mérite pas tout ça à cause de son origine.
Novak Djokovic qui est arrivé, vous l'avez dit, peu après midi ici à l'aéroport de Belgrade. Il a annoncé qu'il voulait retrouver sa famille, un peu de tranquillité. Pas sûr que les Serbes l'entendent de cette oreille.
Vincent Serrano en direct de Belgrade pour RTL.
Alors est-ce la fin pour Djokovic? Il doit être anticipé. On va en débattre à 12h50. Avant cela, retour sur les propos d'Éric Zemmour ce week-end autour de la scolarisation des enfants handicapés.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il faut des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent.
C'est sans aucun doute la polémique politique du week-end, les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Tollé à gauche comme à droite, on a en revanche moins entendu les parents des enfants concernés. Alors qu'en disent-ils? Sont-ils aussi choqués par les propos du candidat? Y a-t-il un vrai débat à avoir autour de cette question? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous, Florent Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coprésident de l'association Autisme Info Service, papa également d'un enfant en situation de handicap qui, je crois, est âgé aujourd'hui de 16 ans, c'est bien
tout
ça?
À fait.
Et puis Marie Guerrier est avec nous en studio, spécialiste des questions d'éducation ici à RTL. Bonjour Marie.
Bonjour.
Florent Chapelle, je me tourne d'abord vers vous. Votre réaction, vous avez été choqué en découvrant ces propos ce week-end d'Éric Zemmour?
Oui, choqué en effet, parce que ce n'est pas une affaire d'obsession, c'est une affaire de droit. Aujourd'hui, tout le monde a tranché, à peu près dans le monde entier. L'ensemble des pays européens sont sur la même ligne. L'Organisation mondiale de la santé dit que les enfants handicapés doivent être scolarisés au même titre que n'importe quel enfant typique. Donc aujourd'hui, qu'on soit autiste ou qu'on ait un problème de chaise roulante, on doit aller à l'école de la République. C'est le lieu, depuis la loi de 2005, c'est le lieu où les enfants doivent être éduqués.
Alors, Marie Guerrier, quelques chiffres. Aujourd'hui, ce sont près de 400 000 enfants, hein, je crois, en situation de handicap qui sont scolarisés dans, on va dire, des établissements classiques.
Oui, c'est ça. Et depuis la loi de 2005 dont vous parliez à l'instant, eh bien, la scolarisation des enfants porteurs de handicap progresse, hein, de 4% par an en primaire et de 10% par an en collège et lycée. Alors, soit ils sont scolarisés en classe ordinaire, soit en classe ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ils ont donc un enseignement adapté dans les classes ULIS, avec des enseignants spécialisés. Et puis une autre partie du temps, ils sont en classe ordinaire. Voilà comment fonctionnent les ULIS. Il y a eu depuis 2017 1300 classes ULIS supplémentaires de créer. Et puis en classe ordinaire, les enfants peuvent être accompagnés par des AESH, accompagnants d'enfants en situation de handicap. Alors là, il y a 60% d'enfants qui ont des AESH en primaire, mais pas toujours à temps plein, le plus souvent d'ailleurs à temps partiel. En collège et lycée, une grosse moitié des élèves peut être accompagnée accompagnés seulement. Il manque en fait des AESH, même si leur nombre a augmenté. On est à 125 500, plus 35% en 5 ans. Mais voilà, il n'y a pas suffisamment d'accompagnants pour les élèves dans les classes ordinaires et le nombre de classes ULIS voilà, doit encore augmenter. Il y a une prise en charge de l'autisme qui a aussi progressé depuis 5 ans avec des unités d'enseignement en maternelle autisme, 115 créées et 99 unités autisme en élémentaire. Le nombre d'enfants scolarisés handicapés, il a augmenté, hein, on le disait, mais en fait on ne sait pas combien il y a d'enfants handicapés sans solution. Ça, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas.
Vous le savez, ça, Florent Chapelle, combien d'enfants
Alors, je ne parlerai que d'autisme. Hein. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que, en grosso modo, en 2010, 80% des enfants autistes n'allaient pas à l'école.
80%.
C'était un chiffre, 80%, oui. Ça faisait à peu près 80 000 enfants qui allaient ou en institut médico-éducatif, à temps partiel, à la maison, sans solution. Aujourd'hui, peut-être qu'on est à l'ordre de 20, mais oui, ça a considérablement évolué. Il y a toujours des enfants sans solution. Il y a toujours des communes, il y a toujours des endroits où ils sont ou refusés, où les parents n'osent pas, où la MDPH, donc la maison du handicap, ne fait pas son boulot. Mais bon, ça reflue quand même. Hein. Aujourd'hui, les enfants sont mieux acceptés, et je crois que l'école de la République a compris tout l'intérêt qu'il y avait à avoir une personne handicapée dans la société. Hein. Comme disait Jean-Claude Amezen, l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique, il disait un enfant handicapé dans une classe, c'est un vaccin contre l'exclusion. Alors, on parle beaucoup de vaccins en ce moment. Vraiment, un vaccin contre l'exclusion, ça veut dire que quand on a eu un enfant handicapé à ses côtés, plus tard, quand on en croise un au restaurant, n'importe où dans la société, sa place est là. Alors que vous voyez bien que que M. Seymour voudrait peut-être, mais pas de politique pour moi, parce que notre service est vraiment totalement apolitique, donc je ne prononcerai pas sur l'homme en particulier, mais la phrase est odieuse. Hein. On voudrait les mettre, les parquer, les envoyer à l'extérieur. Ouais.
Évidemment, il se défend d'avoir dit ça et c'est pas ce qu'il a voulu dire et il l'a nuancé après ses propos. Non. Mais c'est un sujet très délicat, je l'entends. Mais pour reprendre l'exemple des classes ULIS, les classes ULIS s'arrêtent au collège.
Il y en a qui commencent à être installés en lycée.
Non mais je termine juste. Parce que quand vous avez un enfant qui est dyscalculique, dyspraxique, qui a tous les 10 en clair, s'il veut continuer une formation générale, il est en très grande difficulté dans une école classique. Ben oui, vous l'accordez. Et il y a une école qui s'appelle Diagonale à Paris qui prend tous ces élèves-là et qui leur fait avoir le bac. Donc il y a effectivement la position idéologique, moi je veux bien l'entendre, mais moi je pense aux enfants. Et les enfants qui vont dans des écoles spécialisées, ils ont le bac alors que l'éducation nationale ne leur propose pas cela. Et qui contestera que l'éducation nationale n'accueille pas bien tous les enfants handicapés, Marie Guerrier.
Ah mais je vous le concède. Hein. Alors vous parliez Marie Guerrier, pardon, je reprends, mais oui, l'éducation nationale ne fait pas encore tout ce qu'il faut. Mais si vous voulez, si vous continuez à dire que il y a des écoles pour les uns, des écoles pour les autres, c'est une forme de ségrégation. On doit être ensemble. Alors qu'après, il faut qu'il y ait des unités, qu'il faut qu'il y ait.
Ce que vous dites est d'une position idéologique. Elle peut s'entendre, mais on peut considérer que le bien de l'enfant. Parce qu'il faut aussi entendre l'enfant. L'enfant, il peut aller dans des écoles spécialisées où il réussira alors que l'école de la République ne lui permet pas de réussir. Et ça, il faut l'entendre.
Non, mais attendez. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que l'école spécialisée, elle peut aussi être dans l'école de la République. Je veux dire, moi, mon fils, l'année prochaine,
sauf
va aller dans
un lycée. Je vous répète avec l'exemple de l'ULIS. L'ULIS, elle n'est pas dans les lycées pour un bac général.
Mais il faut continuer à avoir des ULIS en bac général et des facs.
Mais il n'y en a pas, monsieur.
Oui, mais alors il faut que l'école change.
Il y a des ULIS en bac pro, mais il n'y en a pas en bac général.
Non, mais attendez. Je suis en train de vous dire que c'est l'école qui doit changer. C'est juste qu'on doit arrêter de les parquer à l'extérieur. C'est tout.
D'abord, parquer, c'est pas très agréable pour cette école que j'ai citée qui s'appelle Diagonale, si vous me permettez. Le mot parquer ne paraît pas exactement le mot qui convient.
Je posais la question à mon père ce week-end et il m'a dit, mais je comprends pas parce que nous, à l'époque, ça marchait très bien. On les voyait pas, ces enfants handicapés. Je dis, papa, le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, leur place est parmi nous. Après, vous pourriez nous dire aussi, bon, ils sont un petit peu bruyants, ces élèves, mais aussi en tant que citoyens, ils sont un petit peu bruyants. Donc, on va leur mettre des restaurants pour eux. On va leur faire des salles de théâtre pour eux. Comme ça, ils pourront crier. Non. On doit être tous ensemble. L'inclusion, c'est un principe fondateur de notre République. Et nous, c'est inscrit maintenant dans la loi. Voilà. Alors qu'après, il y a des cas très particuliers d'enfants qui décrochent, Voilà, j'ai pas envie de nourrir cette polémique, mais oui, à un moment donné, si l'enfant s'automutile et n'arrive plus à aller à l'école, qu'il y ait des établissements spécialisés, je dis pas qu'ils doivent tous disparaître par principe. Il peut y avoir des établissements, mais c'est que le principe de départ doit être l'inclusion.
Nous sommes d'accord, mais encore faut-il que l'école de la République réponde à cette inclusion, et aujourd'hui, elle ne propose pas toujours à tous ses enfants des solutions. C'est
pas
ça.
Toujours.
C'est ça la
On
difficulté.
On pourra continuer le débat dans un instant.
C'est en progression, il faut le noter.
C'est en progression.
C'est en progression, mais il y a du travail.
Et on en parlera sans doute avec les auditeurs, Pascal, au 3210. Merci beaucoup, Florence Chapelle, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vos maris.
Il est 12h51, on parle de Djokovic.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On a besoin, dès que la loi sera promulguée, d'être vacciné. Et donc, ce sera valable aussi bien pour les sportifs français que pour les sportifs étrangers qui viendront en France, évidemment, pour s'entraîner, mais aussi pour les compétitions sportives. On m'a parlé de Novak Djokovic au moment de Roland-Garros, donc au mois de mai. Alors, on espère tous qu'au mois de mai, lorsque Roland-Garros sera organisé, que plus personne n'aura besoin de ce pass vaccinal pour entrer dans un équipement sportif.
La ministre des Sports a été très claire tout à l'heure au micro RTL de Jean-Michel Rascol. La règle désormais donc, pas de compétition sur le sol français pour les athlètes non vaccinés. Pas sûr pour autant, vous l'avez entendu, que cela s'applique à Roland-Garros. Tout dépendra de la situation sanitaire d'ici là, a dit Roxana Maracineanu. Alors est-ce la fin pour Novak Djokovic? Est-ce une retraite forcée alors qu'on a appris qu'il était arrivé à Belgrade il y a quelques minutes? C'est notre deuxième débat avec nous, Isabelle Langer du service des sports de RTL. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et Morgane Menahem, bonjour. Vous êtes ancien agent de joueur et organisateur de tournois en Asie. Un mot d'abord sur cette décision des autorités du gouvernement français. Pas de compétition pour les non-vaccinés. Ça vous semble logique, normal ?
Ça me semble complètement logique, vu qu'on demande à la population française de le faire. Donc les sportifs font partie de la population, français ou étranger. Donc ça ne me choque pas.
Même si ça peut vouloir dire fin de carrière, Isabelle, par exemple, pour Novak Djokovic.
Oui, ça, on y reviendra peut-être dans un instant. Je voudrais juste compléter sur ce qu'a dit Roxana Maracineanu. Les instances sportives aussi, on en parlait, nous, dans la rédaction, comme la Fédération française de tennis, vont aussi devoir trouver une parade pour les mal vaccinés. Parce que, je m'explique, les sportifs qui sont vaccinés avec le Sputnik ou le Sinovac, les Chinois, vous savez, le Sinovac, c'est le vaccin chinois. Ils ne seront pas, si l'on suit la ministre, autorisés à jouer car ces vaccins ne sont pas reconnus par l'Agence européenne du médicament. Alors, est-ce qu'il y aura un alinéa dans la loi ? Voilà, on attend de savoir un petit peu tout ça parce que ça pose plein de questions aussi.
C'est un casse-tête, Morgane, pour l'organisateur de tournoi que vous êtes ou non ?
Alors que j'étais d'abord, mais oui, évidemment, c'est bien évidemment un casse-tête. Et ce que Isabelle vient de relever, c'est arrivé puisque l'Australie avait de facto dit que le vaccin Sinovac n'était pas valable sur son territoire. Donc il y a des joueurs et des joueuses chinoises qui ont dû faire différemment parce qu'ils avaient eu le vaccin Sinovac. Donc de toute façon, la situation est très compliquée. Et pour parler de Roland-Garros et de la France, tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que la situation sanitaire s'améliore vraiment, qu'on puisse faire fi de tous ces vaccins. Voilà, c'est tout.
Et qu'effectivement, au mois de juin, au moment de Roland-Garros, peut-être ne parlera-t-on plus de cela. Mais en revanche, Isabelle, j'avais l'impression que la ministre des Sports a évolué, parce que j'avais cru voir ces derniers jours, ce qui m'avait étonné, qu'on imaginait qu'il y ait des sportifs non vaccinés.
Avec une bulle
avec
sanitaire.
Avec une bulle sanitaire, oui. Comme ça s'était fait les deux dernières années. Mais forcément, comme il y avait des voix qui commençaient à s'élever en disant « Attendez, nous, on va être en tribune, on va être vaccinés, on va regarder des gars qui vont avoir une exemption. » Forcément, il fallait aussi se mettre en accord avec ce qu'avait dit le président Macron. Pour l'avenir de Djokovic, puisque vous m'avez lancé la dessus. Oui, son avenir est compromis si il décide de rester sur sa position, de camper sur ses positions et de ne pas se vacciner parce que aux États-Unis, il faut être vacciné pour aller jouer là-bas. On sait qu'il y a la tournée du printemps qui arrive avec deux gros Masters 1000 et que l'été prochain, il y aura encore un Masters 1000 et l'US Open. Donc oui, forcément, ça va être compliqué pour le CERN.
Et c'est quelle pas est la Morgane position de la Fédération internationale de tennis?
Ils encouragent les joueurs à se vacciner. Aujourd'hui, dans les 100 premiers mondiaux, il n'y en a que 3 qui ne sont pas vaccinés, dont Novak Djokovic.
Morgane Menahem, c'est quoi quand vous regardez ça? Vous dites quoi? C'est un gros gâchis pour Djokovic?
C'est non seulement un gros gâchis, après je pense qu'il faut rappeler deux trois faits parce que les gens sont vraiment excités sur l'histoire de Novak en Australie. Au départ, Tennis Australie, qui est l'organisateur de l'Open d'Australie, est fautif d'avoir essayé de faire venir Novak à tout prix dans l'optique de battre le record des victoires en Grand Chelem qui est aujourd'hui de 20 et qui serait pour lui de 21 s'il avait gagné à Melbourne. Et lui, Novak, quand il a reçu en fait les documents, bah il s'est dit il peut y aller puisqu'on lui a obstrué, enfin on lui a donné une exemption pour y aller. Sauf que là, rapidement dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il a eu un traitement particulier pour le faire venir, parce que la demande d'exemption a été faite après les dépôts des dossiers. Enfin bon, tout le monde connaît désormais l'histoire. Mais tout ça, il y a eu un swing complet dû au fait que la communication a pu cristalliser l'opinion publique en Australie. Et à partir du moment où il a mis son post sur Instagram, voilà, je pense que tout le pays s'est levé contre
lui. Il s'est un peu fait piéger quand on vous entend, c'est le sentiment qu'on a.
Il s'est cru plus fort que tout le monde, en fait.
Oui, alors, il s'est cru plus fort que tout le monde, peut-être, mais au départ, la faute, elle incombe à Tennis Australie qui dit les joueurs peuvent venir avec une fameuse exemption médicale du fait d'avoir eu le Covid depuis moins de 6 mois. C'était une porte ouverte. Novak, si on lui avait dit s'il faut être vacciné pour jouer, je pense qu'il serait jamais venu en Australie. Voilà, on lui a proposé ça et on lui a donné légitimement le fait de pouvoir arguer du fait qu'il a eu le Covid depuis moins de 6 mois. Il a fait sa demande, elle a été acceptée, il est arrivé en Australie et là on lui a dit que c'était pas possible. Donc il y a eu quand même un retournement en quelques jours, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils doivent évidemment montrer l'exemple.
Merci beaucoup, Monsieur Ménarem, et merci à Isabelle Langer. C'est vrai que l'image de Djokovic en sort ternie.
Ternie, on l'a vu dans notre sondage du week-end dernier.
La pause, et nous sommes avec les auditeurs dans une seconde. RTL Midi.